100% d'Europe, Juliette Rangeval.
We were stuck in Europe, but now we can be free. Back in Little Britain, the way it used to be.
Comme beaucoup de mes amis et beaucoup de mes voisins, bon, on a pleuré. Une incrédulité, je crois, parce que c'est marche arrière, c'est vraiment vouloir se renfermer.
So excited. Tellement content. Je me suis dit, enfin, notre pays a pris la décision et nous allons quitter l'UE. J'arrivais pas à y croire.
I couldn't believe
it. Bonjour. Et en effet, beaucoup n'arrivaient pas à y croire et se sont frottés les yeux en se réveillant il y a 3 ans, le 24 juin 2016. Après 43 ans d'appartenance à la communauté européenne, les électeurs britanniques approuvaient à 52% le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans un pays très divisé. Frédéric Lebel a recueilli des témoignages d'hommes, de femmes qui voulaient rester, qui voulaient partir. Il y a eu beaucoup de larmes, de la colère aussi.
I cried.
J'ai pleuré.
I really was sad.
J'étais trop triste.
I've lived through war.
J'ai vécu la guerre. Beaucoup de gens sont morts sous les bombes ici à Londres. Il faut se souvenir de cela, toujours.
Je me souviens du choc, comme si c'était hier. J'avais une boule dans la gorge, je n'arrivais pas à y croire. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. Ce jour-là, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, tout le monde ne parlait que de ça. C'était fou. En allant conduire les enfants à l'école, je me rappelle avoir parlé à l'une des mamans, qui est à moitié irlandaise, comme moi, et on s'est dit qu'on allait demander un passeport irlandais tout en sachant à quel point cette possibilité était un luxe.
A luxury. Donc le 24 juin, je sais exactement où j'étais parce que je prenais un vol pour aller à Bologne. Et en arrivant, j'étais avec des gens et puis ils commençaient à me taquiner du fait qu'on avait perdu le référendum. Et moi, j'étais au bord des larmes, en fait. Je trouvais que c'était pas du tout quelque chose qu'on pouvait blaguer dessus. C'était une chose hyper sérieuse. Après, le fait que Trump était déjà élu, ça m'étonnait pas. Qu'on a eu cette réponse, mais j'étais profondément déçue et je me sentais complètement troublée.
J'étais écœurée. J'étais vraiment pas ahurie parce que je n'étais pas surpris. Parce que moi, j'ai suivi pas mal de référendums en Europe et je trouve qu'ils ont toujours été des votes contre le gouvernement. Alors justement, c'était ce qui est arrivé en Angleterre. Mais j'étais vraiment très triste et aussi j'étais furieux, effectivement, parce que c'était une folie, c'était un acte de suicide presque, suicide national. Et je savais, mais on n'avait pas discuté ni les avantages de l'Europe, ni les problèmes de l'Europe. Et c'était justement ça.
Quentin Peel, ancien correspondant européen du Financial Times, il travaille désormais pour le Chatham House. C'est un institut de relations internationales très prestigieux. Mais pour les Brexiteurs, ce matin du 24 juin 2016, tout paraît possible.
Je me suis levée et j'ai vu à la télé le présentateur David Dumbleby qui disait « Nous allons quitter l'UE ». Alors j'ai explosé de joie, j'ai crié, j'ai dit à ma fille qui descendait l'escalier, ça y est, on va partir, j'étais tellement contente. Vous pouvez pas savoir, je sautais de joie. Et dans mon quartier, les gens étaient pourtant pour qu'on reste. Alors ils me traitaient de raciste, c'était vraiment choquant. Alors j'ai retiré l'affiche qui était collée à ma fenêtre, je voulais pas trop me vanter, mais j'étais sur un nuage pendant 2-3 jours, j'étais tellement contente.
Et Jessica, cette mère de famille, est descendue de son nuage, le Royaume-Uni aussi. Depuis 3 ans, le divorce n'est toujours pas consommé. Theresa May, la première ministre, n'a pas réussi à tenir l'engagement du Brexit. Elle a dû jeter l'éponge. Et la course pour la remplacer au 10 Downing Street est entrée dans sa dernière ligne droite. Plus que 2 concurrents, Jeremy Hunt, l'actuel chef de la diplomatie britannique, et Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-maire de Londres, et ultra favori, malgré quelques obstacles de dernière minute, Marie Billon.
La campagne avait à peine commencé que Boris Johnson se prenait déjà les pieds dans le tapis. Jeudi soir, un voisin a appelé la police après avoir entendu les cris de Carrie Simmons, la compagne du candidat. Des « lâche-moi, sors de chez moi », suivis de grands bruits d'assiettes et de silence. Les agents sont venus mais n'ont constaté aucune infraction. Les sondeurs, eux, ont repéré une légère fissure dans la popularité de Beaujeau auprès des militants. Entre la fin de la semaine et ce week-end, donc avant et après la dispute, l'écart avec Jeremy Hunt s'est réduit de 22 à 11 points. Mais quand on demande leur opinion aux millions de Britanniques qui n'ont pas leur carte du parti et qui donc n'auront pas droit au chapitre, c'est Hunt qui a 3 points d'avance. Alors celui-ci retrousse ses manches, littéralement. Il l'a fait en montant sur scène lors du premier meeting de la campagne qui a eu lieu samedi et il se présente comme le candidat de confiance, un homme sûr. Peu importe, selon une étude publiée la semaine dernière, par contre, puisque 40% des membres du Parti conservateur ne font pas confiance à Boris pour dire la vérité, mais 75% sont prêts à voter pour lui quand même. C'est que les conservateurs veulent du changement. Ils ne veulent plus d'un premier ministre qui se fait une gloire de ne pas chercher la popularité à tout prix, comme l'a dit Jeremy Hunt et comme l'a fait Theresa May. Ils veulent quelqu'un qui a du peps, qui redonnera de l'énergie à la politique devenue morose. 3 ans après le vote du Brexit, ils veulent quelqu'un qui croit en la vie hors de l'Union européenne depuis le début. Boris va donc devoir faire des gaffes bien plus graves que ça s'il veut vraiment faire douter les conservateurs.
Alors qu'Istanbul fête le retour de la démocratie après la victoire d'un opposant aux élections municipales, c'est un procès que certains baptisent déjà procès de la décennie qui commence en Turquie. 16 personnalités de la société civile jugées à partir de ce lundi pour tentative de renversement du gouvernement. Elles sont accusées d'avoir organisé le mouvement de Gezi, nom donné aux 3 semaines de manifestations anti-gouvernementales qui avaient secoué le pays en mai-juin 2013. À Istanbul, un reportage d'Anand Lauer.
Il y a 6 ans, précisément, les personnes réunies dans cette salle de conférence affrontaient côte à côte les gaz lacrymogènes dans le parc Gezi. C'était un printemps stambouliote totalement inédit. Des centaines de milliers de Turcs dans les rues du pays pour protéger ce parc d'abord, mais aussi pour se révolter contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. 6 ans plus tard, ce n'est plus la police, mais la justice qu'ils affrontent. 16 personnalités de la société civile sont jugées depuis ce 24 juin pour tentative de renversement du gouvernement, entre autres lourdes charges. Elles sont accusées d'avoir planifié, animé et même financé les protestations. Parmi elles, l'architecte Mücella Yapıcı.
Gezi, c'était un espoir d'égalité, de liberté et de justice pour ce pays. C'était l'une des pages les plus glorieuses de notre histoire urbaine et sociale et de notre démocratie. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de réécrire l'histoire de Gezi avec un acte d'accusation aberrant, fondé non pas sur des preuves tangibles, mais sur les pires théories du complot. Nous refusons ces efforts pour salir Gezi, parce que nous, nous avons vécu Gezi, nous savons.
L'acte d'accusation, particulièrement indigeste, est long de 657 pages. Le procureur a requis la perpétuité pour les accusés. Sa sévérité s'explique par le fait que tout le gouvernement de l'époque, soit 27 personnes, s'est constitué partie civile. Il y a 746 plaignants au total, et le numéro 1 sur la liste, c'est le premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan. Désormais président, il considère Gezi comme une tentative de putsch organisée avec l'appui de forces étrangères, en particulier de la fondation Open Society du milliardaire américain George Soros. Le parquet d'Istanbul a repris ce raisonnement. Pourtant, l'acte d'accusation ne fournit aucune preuve de ces allégations, dénonce Mücella Yapıcı.
On y trouve par exemple une carte issue d'un manuel d'apiculture présenté comme un plan pour diviser la Turquie. On y lit que des sandwichs envoyés aux manifestants sont la preuve d'un financement international. On invente des forces étrangères cachées derrière des touristes à Antalya. On interprète le fait d'offrir des fleurs aux policiers comme un signe de tentative de renversement du pouvoir. Ça aurait pu être comique si ça n'avait pas déjà privé de leur liberté certaines des personnes visées.
Parmi les 16 inculpés, 2 sont effectivement en détention préventive. Le célèbre philanthrope Osman Kavala, cofondateur de la fondation Open Society en Turquie, accusé d'avoir financé les manifestations, en prison depuis 1 an et demi. Et le représentant local de la fondation néerlandaise Bernard Van Leer, Yiğit Aksakoğlu, incarcéré depuis 7 mois. L'urbaniste Tayfun Karaman est aussi sur la liste. Selon lui, en faisant d'Osman Kavala le principal suspect, le pouvoir politique poursuit un objectif précis.
Le but est de créer un lien entre Gezi et une intervention étrangère par le biais de la fondation Open Society. Mais j'insiste, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas le procès d'Osman Kavala, c'est d'abord le procès de Gezi. C'est un procès entièrement politique, ce qui signifie que toutes les issues sont possibles.
Et Roland Derolou, représentant de l'ONG Reporters sans frontières en Turquie, va suivre ce procès de très près. Il pointe du doigt l'un des aspects les plus déroutants de cette procédure lancée l'année dernière.
Pourquoi 5 ans après ? pourquoi des acteurs de la société civile on ne peut plus visibles, déjà contrôlés. Des gens qui font l'objet d'une telle accusation n'ont jamais été convoqués par un parquet juste après Gezi ou des mois après ou les premières années. Non, il a fallu attendre 5 ans, 6 ans pour qu'ils fassent l'objet d'un acte d'accusation.
L'urbaniste Typhoon Karaman rappelle qu'un premier procès s'était tenu après les manifestations et qu'il s'était conclu par l'acquittement des accusés. Selon lui, l'objectif est clair.
Le pouvoir politique règle ses comptes avec ce qui reste, à ce jour, le plus grand mouvement de contestation qu'il ait eu à affronter. C'est une blessure ouverte pour lui. Le message qu'il envoie est double. Ne manifestez pas, ou nous n'hésiterons pas à répondre violemment. Et si vous manifestez malgré tout, attendez-vous à être jugé pour tentative de coup d'État et à vous exposer à une peine à perpétuité.
Pour le représentant de RSF, Erol Önderoğlu, ce procès en dit long sur l'état de la justice turque depuis le coup d'État manqué de juillet 2016.
Ça dit de l'ingérence politique à la justice. Moi, je ne pense pas que la justice a une gestion autonome, indépendante, suite à l'état d'urgence et suite à la manipulation de cette justice. Le dégât la plus importante a été créé à ce niveau-là. Et je pense que ça prendra beaucoup plus de temps pour qu'elle se redresse.
Le mois dernier, le président Erdogan a promis une vaste réforme de la justice, censée harmoniser le droit turc au droit européen. Il y est question notamment de limiter l'usage de la détention préventive et de renforcer la liberté d'expression. Alors que s'ouvre ce grand procès de Gezi, que certains baptisent déjà « procès de la décennie », les opposants turcs ont toutes les raisons de douter de ses promesses.
Ah, ho paura di continuare a vivere così, non ho paura di morire. Non perché sia temerario o particolarmente coraggioso. Mi hanno parlato così tanto spesso della mia morte che sembra qualcosa che non mi appartenga.
Les professeurs, les économistes, les journalistes, les intellectuels, tous étaient déjà les ennemis préférés de la Ligue et du mouvement 5 étoiles avant leur arrivée au pouvoir en Italie. Alors depuis un an, elles sont régulièrement moquées, décrédibilisées et même menacées. C'est le cas de l'écrivain Roberto Saviano, pris pour cible par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini en personne. Les explications de Franceline Beretti.
Les menaces contre Roberto Saviano sont réelles. L'écrivain et journaliste est connu pour Gomorra, publié en 2006, il dévoile en détail le fonctionnement et l'horreur de la mafia napolitaine. Ce livre ne plaît pas du tout à la Camorra. Sa tête est mise à prix, sa famille menacée, et depuis 13 ans, Saviano vit sous protection policière. Vie, c'est beaucoup dire. Il n'a plus de relations sociales, amicales, ne peut rien faire à l'improviste, n'a pas de maison ou d'appartement, ne peut pas rester plus d'une semaine au même endroit. Et comme si sa vie était trop douce, Matteo Salvini menace maintenant de lui retirer son escorte. Ça coûte trop cher. En fait, depuis son arrivée au pouvoir, le ministre de l'Intérieur répète qu'il va évaluer s'il y a un risque quelconque pour l'écrivain. Et il y a quelques semaines, dopé par son excellent score aux élections européennes, Salvini enfonce le clou. Il diffuse une vidéo sur Facebook dans laquelle il fait, je cite, « un gros bisou » à Roberto Saviano, puis il rappelle, mine de rien, qu'il est en train de revoir les critères pour la protection des personnalités. C'est qu'aux yeux du vice-premier ministre, Roberto Saviano est trop critique. L'écrivain dénonce la politique migratoire du gouvernement et l'accuse de traquer les opprimés plutôt que le crime organisé. Il traite Matteo Salvini de bouffon, de ministre de la mala vita, autrement dit, ministre de la mafia. Ce n'est pas la première fois qu'un officiel remet en question la nécessité de l'escorte de Roberto Saviano. Mais cette fois, le journaliste est attaqué par l'un des plus hauts représentants de l'État, qui en a fait une question personnelle.
Un monde sans abeilles, demain, certains le craignent et réfléchissent à des solutions pour sauver ces insectes indispensables à la pollinisation. Un défi que tente de relever une jeune pousse de l'agritech, la société Apis Protect, née à Cork, en Irlande, en 2017. Une jeune ingénieure de 28 ans a eu l'idée d'équiper les ruches de capteurs qui surveillent 24 heures sur 24 la vie de l'essaim. C'est un reportage en Irlande de Frédéric Lebel.
C'est à Dublin, dans une de ces nouvelles pépinières pour start-up, que le docteur Fiona Murphy est venu présenter sa jeune pousse, la société Apis Protect. À peine 2 ans d'existence et déjà 10 collaborateurs. Sa trouvaille, un capteur de la taille d'une télécommande qui enregistre 24 heures sur 24 la température, le mouvement, les bruits et le taux de dioxyde de carbone au sein des ruches. Bref, une veille pour abeilles, de précision. Après analyse, les données
données sont transmises en temps réel à l'apiculteur. On peut tout simplement dire à l'apiculteur si son essaim est vivant ou mort. Parce que si vous êtes un apiculteur et que vous devez gérer 10 000 ruches, ce qui peut vous paraître incroyable, mais il y a bien des domaines de cette taille-là. Alors bon nombre de ces ruches sont loin de votre champ de vision et vous ne savez pas ce qui s'y passe. Et nous, on dit, attention, il y a 200 essaims qui sont morts, il faut les remplacer. Sinon, les apiculteurs ne peuvent pas remplir leur contrat de pollinisation s'ils en ont un ou assurer leur production de miel.
Apis Protect est encore en phase d'expérimentation. Les abonnements et donc la commercialisation ne sont prévus que pour la fin de l'année prochaine. En attendant, des apiculteurs en Irlande, en Afrique du Sud et en Californie ont installé quelques 200 capteurs pour les tester et collecter ces précieuses données. Sur la côte ouest des États-Unis, l'outil pourrait se révéler indispensable.
Si on veut passer à une échelle supérieure et faire pousser des pommes et des amandes avec une forte productivité, alors il faut gérer la pollinisation. En Californie, par exemple, où on fait pousser beaucoup d'amandes, ils ont 2 ruches par acre d'amandiers. Et il y a 5 comtés en Californie qui produisent des amandes. Donc, il leur faut 2 millions de ruches. Sinon, ils n'auront aucune récolte d'amandes.
En Irlande, un des apiculteurs partenaires est Simon Lynch. On est là sur une dimension artisanale, à peine une dizaine de ruches. Simon ne les ouvre qu'une fois par semaine, mais entre-temps, les enseignements qu'il tire de ce capteur, alimenté par un panneau d'énergie solaire, lui aussi posé sur la ruche, sont précieux.
Il y a 2 mois, c'était il y a 2 semaines. L'activité dans une des ruches a changé. Durant la nuit, les abeilles sont rentrées, mais dans une des ruches, la taille d'un essaim avait fortement baissé. Apis Protect m'a alerté. En fait, une colonie était en train de migrer. La moitié était partie. Heureusement, on a pu la récupérer et l'installer dans une nouvelle ruche, et on ne les a pas perdues. C'est le genre d'information essentielle pour nous, qui nous permet de maintenir la taille et la bonne santé de nos essaims d'abeilles.
Cet ancien paysagiste a lancé il y a 5 ans une brasserie Wicklow Wolf, qui s'est déjà fait une réputation en Irlande et va se lancer à l'export. Devant ces sublimes champs de houblon qui vont atteindre des hauteurs infinies, il rêve déjà à de nouvelles saveurs portées par les abeilles et leur indispensable pollinisation.
Le houblon est une plante femelle, donc il n'y a pas d'intérêt pour le houblon, mais il y a beaucoup d'autres plantes pour lesquelles ça peut nous servir. Par exemple, avec les baies, les fruits, on pense produire dans le futur des éditions de bière avec un parfum framboise, myrtille, groseille, mûre. Alors là, bien sûr, les abeilles auront leur rôle à jouer dans la pollinisation. C'est ça la beauté du métier de brasseur. On essaie d'être créatif. C'est quand la science rejoint l'art.
En attendant, la science rejoint surtout l'écologie. Le syndrome d'effondrement des colonies, comme disent les anglophones, est le résultat de l'action combinée du dérèglement climatique, des pesticides, des nouvelles maladies et des prédateurs. Pour l'homme, sauver les abeilles sera un des enjeux du siècle. Le docteur Fiona Murphy sait bien pourquoi elle a choisi de s'intéresser de très près aux abeilles.
Dans les 30 prochaines années, il faudra qu'on produise au moins 59% de nourriture en plus. Et nous aurons toujours les mêmes terres agricoles, les mêmes ressources. Et il faudra justement augmenter la culture de ces végétaux qui ont besoin de pollinisation. Les noix, les baies, les légumes. Il faudra en produire plus et il faudra aussi leur accorder plus de place dans notre régime alimentaire parce qu'elles sont plus rentables. Donc dans les prochaines années, on aura encore plus besoin des abeilles pour ces cultures.
La somme des connaissances collectées par Apis Protect au cours des prochaines années sera non seulement précieuse pour les agriculteurs et les apiculteurs, mais aussi pour les scientifiques.
Et un reportage réalisé avec le soutien de la Direction Agriculture et Développement Rural de la Commission européenne. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, nous serons ici demain à la même heure sur les antennes de Radio France Internationale.